nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Jacques Delarosière, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour ce deuxième volet de Focus. Je rappelle brièvement le principe de notre émission, découvrir des académiciens à travers quatre faits marquants de leur vie. Alors rappelons qu'avant d'avoir été nommé académicien à l'Académie des sciences morales et politiques, il y a de cela une douzaine d'années, vous avez été un étudiant brillant puisque vous êtes entré à l'École nationale de l'administration, l'ENA. Faire plus simple. Vous avez côtoyé Valéry Giscard d'Estaing en 1974, alors qu'il était ministre de l'économie. Et les années s'écoulent, vous enfilez successivement les habits d'inspecteur des finances, directeur du Trésor, puis d'administrateur de Renault, d'Air France, de l'aérospatiale et de la SNCF. Hier, nous avons évoqué avec vous votre nomination comme directeur général du Fonds monétaire international entre 1978 et 1987. Vous êtes alors confronté de plein fouet à la crise des années 80. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la période des années 90 avec, à cette époque-là, vous êtes le gouverneur de la Banque de France et vous allez donc nous parler de ce problème du franc.
Oui, pour situer un peu les choses, la crise a vraiment été à son paroxysme à partir de 92 et en 93. Il faut se rappeler qu'on sortait d'une période de dévaluation répétée, notamment entre 1982 et 1987, la dernière dévaluation ayant eu lieu en janvier 1987. Moi, je suis arrivé à la Banque de France à la fin du mois de janvier 87.
En 1987.
Oui, à la fin du mois de janvier, la dévaluation avait eu lieu avant. Donc, il y avait eu un contexte, si vous voulez, de dévaluation répétée.
Et votre nomination en tant que gouverneur de la Banque de France était une suite logique après avoir eu le poste de directeur du FMI.
Bon, logique, je ne sais pas, mais bon, j'étais une personnalité qui avait réussi, je crois, au Fonds monétaire international. Et il y avait une vacance à la Banque de France, on a pensé à moi. Et le gouvernement m'a demandé de revenir de Washington, ce que j'ai fait après 8 années passées au FMI.
Donc voilà, c'est en tant que gouverneur de la Banque de France que vous avez été confronté à ce problème de
c'est
la crise
ça.
Du
Alors,
franc.
Alors j'expliquais qu'il y avait eu un certain nombre de dévaluations dans les années qui avaient précédé le mois de janvier 1987. Il y avait eu aussi un certain nombre d'hésitations sur le cours de la politique économique à suivre. Et quand je suis arrivé, c'était Monsieur Balladur qui était ministre des Finances. Puis après, il y a eu une cohabitation. Ça a été Monsieur Bérégovoy. Et il a été clairement décidé et arrêté par les autorités gouvernementales que on ne dévaluerait plus. Que le jeu, si vous voulez, consistant à laisser un peu filer la monnaie, puis à dévaluer, etc., était un jeu qui n'était pas compatible avec un grand projet qui, en parallèle, se poursuivait et qui était celui de la création d'une union monétaire. Parce que si la France, en effet, continuait de glisser par rapport au Deutsche Mark, quelle serait la crédibilité de la France dans les négociations tendant à l'union monétaire.
Donc il fallait réduire l'écart d'inflation
Alors il fallait réduire l'écart d'inflation. Vous avez parfaitement cerné le problème. Et je dois dire que toutes les années 87, 88, 89, 90 et au-delà ont été des années, si vous reprenez les courbes, où vous voyez que l'écart d'inflation avec l'Allemagne, qui était un peu le pivot dans le système monétaire européen du mécanisme, que l'écart d'inflation avec l'Allemagne s'est continuellement réduit au point que, au début des années 90, il est devenu inférieur. L'inflation française est devenue inférieure à celle de l'Allemagne. Donc, la détermination des autorités publiques françaises était extrêmement importante pour le gouverneur que j'étais. Car à l'époque, la Banque de France n'était pas statutairement indépendante du gouvernement. Elle était encore dans la main du gouvernement. Oui. C'était le gouvernement qui décidait de la politique économique en général et même de la politique monétaire. La Banque de France ne faisant que, à l'époque, appliquer la politique monétaire. Donc le fait d'avoir un gouvernement et des ministres des Finances particulièrement attachés à la stabilité de la monnaie, à la lutte contre l'inflation, rendait les choses beaucoup plus faciles. Alors nous étions, comme vous le savez, depuis quelques années, dans un système monétaire de change entre pays européens, entre certains pays européens qui voulaient qu'aucune parité ne s'écarte du taux central de plus de 2,25%. Et donc on était dans une situation où les taux de change devaient être très surveillés. Les variations étaient très faibles, 2,25, c'est très peu de choses. Et donc, la moindre erreur de politique économique, la moindre mauvaise annonce, un chiffre budgétaire qui n'inspirerait pas confiance, etc., pouvait entraîner des mouvements de change.
Surtout que la situation sociale et économique en France était un peu particulière, c'était assez tendu.
Elle n'était pas très facile, car nous étions obligés en plus d'avoir une politique monétaire un petit peu plus prudente, c'est-à-dire des taux d'intérêt un peu plus et même parfois assez significativement plus élevés que ceux de l'Allemagne, qui avait pour elle, si je puis dire, l'acquis de la stabilité et de la crédibilité depuis très longtemps. Nous ne l'avions pas, puisque je vous disais que la dernière dévaluation datait de 87, donc le marché qui est un peu lent, si vous voulez, à enregistrer les novations, se rappelait davantage les dévaluations passées que la détermination présente. Donc le marché n'était pas très favorable et il fallait tenir des taux d'intérêt assez élevés qui, en effet, contribuaient à une situation économique probablement moins allante du point de vue de la croissance que cela n'aurait pu être le cas si nous avions eu un peu plus de marge. Mais la situation était telle que nous étions obligés dans cette situation. Alors, ce qui s'est passé, la crise dont vous me parlez, s'est manifestée essentiellement en 1992. Qu'est-ce qui s'est passé en 92? En 92...
C'est le changement, c'est la cohabitation.
Non, c'est pas la cohabitation. La cohabitation, elle existait avant, puisque elle a commencé, en réalité, quand le gouvernement de droite est parti en, je crois que c'était en 88, ou, donc on était habitué à la cohabitation en 89, 90, 91, elle a cessé en 93, quand le Parti Socialiste a échoué aux élections. Donc on était en période, non pas de cohabitation dans ces années-là, mais en période de gouvernement socialiste. Et c'est pas le fait que ce fut le gouvernement socialiste, car M. Bérégovoy était extraordinairement attaché à la stabilité du franc. Non, c'est un autre phénomène qui est intervenu. Cet autre phénomène, c'est que, parallèlement, et ça fera l'objet d'une autre de nos conversations, parallèlement, on poursuivait l'objectif d'une banque centrale, d'une monnaie unique, et le traité de Maastricht, qui était le résultat de toutes ces négociations, commençait à être soumis aux ratifications nationales, voire au référendum. Et au Danemark, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Danemark, c'était à la fin de l'été de l'année 92, le peuple danois a dit non au traité de Maastricht. Tout d'un coup, les marchés, qui avaient assez bien absorbé tout cet effort de stabilisation monétaire, cette politique anti-inflationniste un peu généralisée, et qui voyait se dérouler tout ça avec les Anglais qui étaient à l'intérieur du système de taux de change très stable. Le marché s'est tout d'un coup dit, mais au fond, c'est pas acquis cette affaire de l'union monétaire, puisque un pays vient de dire non, d'autres pourront peut-être dire non. Et à ce moment-là, vous avez eu une spéculation effréné sur un certain nombre de monnaies, les opérateurs, ne les appelons pas spéculateurs, qui est un peu péjoratif, les opérateurs se disant, puisque c'est pas acquis, les parités qui sont dans ce système monétaire européen, avec leurs 2,25, etc., changeons-les, bougeons-les. Et alors le processus était simple, on choisissait la prochaine victime. Alors on a choisi la lyre, on a choisi la livre sterling, on a choisi la pesette. Plus tard, on a choisi le franc. Mais on les choisissait les unes après les autres. Et qu'est-ce qu'on faisait ? Que faisaient ces opérateurs ? Ben, ils empruntaient, par exemple, de la lyre italienne. Immédiatement, ils changeaient ces lyres italiennes contre la monnaie forte qu'était le Deutsche Mark. Donc, ils affaiblissaient la lyre. Espéraient qu'en l'affaiblissant, ils allaient épuiser les réserves de la Banque d'Italie qui ne pourraient plus intervenir et qu'il y aurait une dévaluation. Et comme ils s'étaient constitués avec ces emprunts des avoirs en Deutsche Mark qui, par définition, auraient vu leur change se relever par rapport à la lyre italienne, il leur était facile de rembourser leur emprunt en lyre italienne et de garder une marge avec les Deutsche Mark.
C'était stratégique. Hein.
Voilà, c'était stratégique. Alors, ils ont fait ça sur la lyre, ils ont fait ça sur la pesette, ils ont fait ça en septembre sur la livre britannique, qui était plus grave parce que c'était une monnaie internationale, c'était une monnaie de réserve. Et ils l'ont fait basculer avec une violence dans la spéculation qui est un chapitre connu maintenant de l'histoire monétaire. Et la livre sterling a été obligée de quitter le système monétaire européen et de flotter, si vous voulez, à la baisse. C'était donc en septembre 1992. Le franc était la cible suivante, après la livre. Et nous avons commencé à souffrir, dès septembre 1992, d'attaques du même type, emprunt de francs français, transfert immédiat en Deutsche Mark, et on attendait la dévaluation pour le week-end ou le week-end d'après, pour se faire la différence. Et à la différence de la livre sterling, le franc a tenu.
Alors comment vous l'expliquez ?
Eh ben, il l'a tenu, à mon avis, pour trois raisons. La première raison, c'est que les fondamentaux, c'est-à-dire les rapports de compétitivité entre la France et l'Allemagne, étaient bons. Je vous ai dit tout à l'heure que les écarts inflationnistes avec l'Allemagne non seulement se réduisaient, mais s'étaient même inversés. Ce qui veut dire que l'évolution des prix en France était plus favorable qu'en Allemagne. Et donc, nous n'avions pas un problème de compétitivité. C'est-à-dire que le franc, avec la parité qu'il assimilait en quelque sorte au Deutsche Mark, n'avait pas de difficulté à exporter ses produits, etc. Ce qui n'était pas le cas de la livre sterling, qui était entrée dans le système monétaire européen de change très fixe, à un niveau probablement trop surévalué. Ce n'était pas notre cas. Donc ça, c'est la première raison. Autrement dit, sur le plan économique, il n'y avait pas de raison de dévaluer le franc. La deuxième raison, c'était la volonté absolument déterminée de celui qui vous parle, bien entendu, mais aussi du gouvernement français. Et là, je veux rendre hommage à Pierre Bérégovoy, qui était le premier ministre de l'époque et qui, malgré les difficultés internes que cette politique de grande rigueur lui apportait, et ça s'est vérifié d'ailleurs en 93 quand le Parti Socialiste a perdu les élections, a continuellement soutenu mon action sur le marché des changes. Et la troisième raison, c'est que l'Allemagne, qui était engagée avec la France dans ce processus d'union monétaire, avec Kohl-Mitterrand, vous savez, leur alliance pour créer cette monnaie unique, et le référendum avait passé tout juste en France,
oui,
on était embarqué dans cette affaire.
51.
L'Allemagne ne voulait pas que la France subisse le sort, si vous voulez, un peu humiliant de la Grande-Bretagne, d'être forcé contre l'économie même des rapports financiers et monétaires à sortir du système dans une dévaluation. Donc ils nous ont beaucoup aidés en nous prêtant des Deutsche Mark dont on avait besoin pour alimenter le marché. Et cette situation a donc duré pendant les derniers mois de l'année 92, les premiers mois de l'année 93. Il y a eu une nouvelle culmination de la crise, si je puis dire, en mauvais français, en juillet 93, qui a abouti à des chiffres d'intervention absolument astronomiques. Le marché était furieux d'avoir, devant cette place forte, ça faisait 4 mois qu'il était là à bombarder la place forte avec ses opérations, il ne touchait toujours pas son dividende, et évidemment, les emprunts qu'ils faisaient en francs commençaient à leur coûter, parce que les taux d'intérêt du franc étaient très supérieurs à ceux des taux d'intérêt en Allemagne. Et donc, ils avaient à supporter les taux d'intérêt de ces emprunts qu'ils avaient faits. Et ils sont devenus virulents, donc au mois de juillet 93, et à la faveur d'une erreur d'annonce qui venait du ministère des Finances et sur laquelle je ne reviendrai pas, ils se sont acharnés sur le franc. Et ça s'est terminé le dernier jour, c'est-à-dire le 31 juillet 93 et le 1er août, ça s'est terminé dans une séance historique à Bruxelles où nous avons décidé d'élargir les marges de fluctuation à 15% alors qu'elles étaient à 2,25 et de montrer au marché que c'était à eux de déterminer ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient continuer à emprunter des francs et à acheter des Deutsche Mark ou est-ce qu'ils allaient arrêter le combat? En fait, dès le lendemain, c'est-à-dire le lundi où on a ouvert les marchés, ils ont décidé d'arrêter le combat. Ça a commencé à leur coûter cher. Ils ont remboursé les prêts en francs. Et tout ça s'est dénoué dans les quelques mois qui ont suivi août 93.
Merci Jacques Delarosière. On se retrouve demain et nous évoquerons cette fois-ci votre rôle dans la mise en place de l'euro. À très bientôt.
Merci.